Mobilisation d'une partie des soignants du Nord, ils ont mis en place un SAMU populaire pour faire face à la fermeture des urgences de l'hôpital de Koumac. Le chocolat, produit phare de la fête de Pâques. Cette année, le marché est bouleversé et les chocolatiers doivent aussi faire face à la hausse du prix du cacao. Les relations entre la France et l'Algérie toujours au plus mal. Emmanuel Macron plaide pour la fermeté vis-à-vis du pouvoir algérien tout en privilégiant toujours la voie du dialogue. Les viticulteurs inquiets, la consommation de vin dans le monde a reculé de 3% et le vin rouge perd de son attrait. Et puis en football, Arsenal sera l'adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Gunners sont sortis ce matin le Real de Madrid de Kylian Mbappé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Du 11 au 14 juin prochain, 8 startups calédoniennes vont participer à Paris au Salon Vivatech, le plus grand événement européen dédié aux startups. Quelles opportunités cela représente pour elles? Quelles sont leurs perspectives de développement? Nous en parlerons dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu en recevant 4 des 8 startups sélectionnées pour aller à Vivatech par le gouvernement. Nous serons en compagnie de Jean-Simon Chaudier de Fire Tracking, de César Delisle de Testeum, d'Atem Bellagi d'Optimal RH et d'Olivier Dabou de Bifort. Rendez-vous pour les Jeudis de l'économie dès la fin de ce journal. C'est aujourd'hui pour les chrétiens le premier des trois jours saints, ce qu'on appelle le Triduum Pascal, qui prépare à la fête de Pâques. Avec le dimanche des Rameaux, les chrétiens sont en effet entrés dans la semaine sainte qui se termine dimanche avec la célébration de la fête de Pâques. Auparavant, les catholiques participent à plusieurs célébrations au cours de ce qu'on appelle donc le Triduum Pascal, qui concerne les jeudis, vendredis et le samedi saint. Aujourd'hui, c'est le Jeudi Saint. Les messes commémorant la Sainte-Seine seront notamment célébrées ce soir à 18h à la cathédrale de Nouméa, à l'église de Rivière-Salée et à l'église du Vœu. Messe à 18h30 à Saint-Jean-Baptiste. Le territoire connaît, on le sait, une pénurie de soignants. Cela fait des années que les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme sur le manque d'attractivité du territoire, notamment lié à l'insécurité, Nicolas Legrand.
Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, le gouvernement avait exprimé sa profonde indignation et sa ferme condamnation à la suite de l'agression récente d'un infirmier, mais aussi de la dégradation du matériel d'un autre professionnel de santé. Des actes de violence physique, mais aussi morale, des soignants qui sont régulièrement victimes d'actes d'incivilité à l'image d'Angélique. Écoutez l'émotion de cette infirmière qui nous a appelé ce matin dans Vous avez un avis.
Je voulais passer un coup de gueule ce matin parce que j'en ai gros sur le cœur. À savoir que je me garde devant chez un patient et là, une voiture arrive, elle me hèle et le monsieur dit bonjour, il me dit « Madame, faut dégager, qu'est-ce que vous faites là? C'est moi, j'habite là, je veux me garer devant chez moi. » Il me sort sa carte d'handicapé et je lui dis « Mais monsieur, vous avez votre place, elle est juste devant ma voiture, donc il suffit de vous garer devant. » Et là, toujours dans le même ton de l'agression, il me dit « Non, vous déplacez votre voiture, dégage. » Et il finit par « Rentre chez toi. » Alors là, « Belle rentre chez toi. » Et je lui dis, mais monsieur, c'est comme ça que vous perdez vos soignants. C'est en agissant comme ça. En ce moment, il y a une hémorragie des soignants. Vous êtes les seuls à pouvoir arrêter cette hémorragie. Mais il faut respecter les gens. Nous, on est là pour vous. On est là pour vous soigner. Et je comprends pas comment on peut être aussi irrespectueux et avoir si peu de reconnaissance. Vraiment. Moi, les gens, quand ils me disent, sortez ma poubelle, regardez mon chien, il a un bobo, faites ci, allez à la pharmacie. Je fais tout pour les gens. Et voilà comment on nous traite. Ça m'a vraiment dégoûté, quoi. Vraiment.
D'énormes difficultés quotidiennes qui ont conduit au départ du territoire de plusieurs infirmiers qui ne sont malheureusement pas renouvelés. La situation est, vous le savez, particulièrement critique dans le Nord. Alors, pour faire face à cette pénurie de soignants, mais aussi à la fermeture de certaines structures, des professionnels du secteur ont décidé de donner de leur temps pour soigner les gens bénévolement. Dans le Grand Nord, par exemple, le SAMU populaire a vu le jour en fin d'année dernière. Deux médecins en activité, une dizaine d'infirmiers et des bénévoles interviennent sur les accidents du quotidien. Écoutez Véronique Besançon, infirmière à la retraite, qui ne pouvait pas rester les bras croisés face à cette situation d'urgence.
On ne pouvait pas rester là, regarder les gens mourir devant notre porte. C'était pas possible, quoi. On s'est dit, non, mais il faut faire quelque chose. Les urgences de l'hôpital de Koumac sont fermées. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans aux urgences de nuit à l'hôpital. Et en disant, mais on voyait tellement de monde qui venait dans nos urgences, on ne peut pas ne plus rien faire. Donc à partir de ce moment-là, les pompiers nous ont dit, nous, on a une ambulance qu'on peut mettre à disposition avec un chauffeur. Et après, ça a été les bonnes volontés. Donc on a des personnels de santé, on a des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui viennent pour qui nous aident dans la logistique, qui viennent avec nous sur les interventions, parce qu'il faut relever les identités des gens, etc. On ne se déplace que sur demande du SAMU. C'est-à-dire qu'on prend de notre temps, mais de notre temps de repos aussi, parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça, quoi. On a fait ça, nous, pour venir en aide aux gens, parce que les gens de Poum, les gens de Ouigoua, ils ne sont plus à une heure ou une demi-heure d'un hôpital, mais ils sont à une heure de plus, c'est-à-dire deux heures et demie. Ce n'est pas possible.
Véronique Besançon affirme que la population soutient cette initiative. Plusieurs entreprises ont également fait des dons au SAMU populaire. Un élan de solidarité qui réchauffe le cœur de ces soignants bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. Le collectif SOS du Nord Santé en Péril et SAMU Populaire ont décidé de multiplier leurs actions en donnant notamment des cours de secourisme aux populations pour éviter les drames liés à cette dégradation de l'offre de soins. On retrouve Véronique Besançon.
On a décidé d'aller plus loin dans notre démarche, en plus du temps que l'on donne pour aller sur un accident, sur une personne qui fait un malaise à domicile, etc. Tous les mercredis soirs, on fait des formations. L'hôpital nous a mis un petit local à notre disposition. Et donc, tous les mercredis soirs, qui veut venir, on fait des formations. Que faire en cas d'hémorragie, que faire en cas d'arrêt cardiaque. Et on a beaucoup de gens qui viennent, qui nous remercient de faire cette formation-là, parce qu'ils disent, moi maintenant avec mes enfants, ou j'ai telle personne à la maison, je saurais quoi faire. Et puis surtout, on leur dit qu'il faut qu'ils rentrent aussi dans la chaîne de secours. Donc ils viennent avec nous, ils viennent sur des interventions, ils nous donnent la main. Les gens sont tellement avec nous qu'on ne peut plus arrêter maintenant.
Véronique Besançon, infirmière à la retraite, aimerait pourtant bien arrêter. Elle demande donc la réouverture des structures d'urgence en province nord. Je rappelle que tout le mois de mai, les urgences seront fermées à Coumac et à Poindimier. Seules les urgences de Conné seront ouvertes 24 heures sur 24.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'avec la fuite du projet d'accord qui devait rester confidentiel et les attaques contre les pages Facebook de Sonia Backès et des Républicains calédoniens, nous sommes face à une tentative de déstabilisation. Ils sont 8% à penser que ce n'est pas le cas. Voici notre question du jour. Après le séminaire de la FEDOM, pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie dispose de leviers suffisants pour rassurer les investisseurs privés en vue de la reconstruction? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La Marine nationale recrute. Le chef du service recrutement de la Marine est d'ailleurs sur le territoire et le capitaine de vaisseau Makara Houk était notre invité ce matin à 7h30.
Oui, il est en Nouvelle-Calédonie pour inspecter le bureau de recrutement de Nouméa qui est situé à la caserne Gallipas-Bosc. Il vient aussi pour rencontrer les acteurs participant au renforcement du lien armée-nation-jeunesse et présenter aussi les différentes formations pouvant être données et donner accès aux 80 métiers présents dans la Marine nationale ainsi que les possibilités offertes en Nouvelle-Calédonie. Ce matin, le capitaine de vaisseau Houk nous a rappelé que la marine recrutait des jeunes français de 18 à 30 ans et que le panel de métiers permet à chacun de trouver sa place.
L'offre de la marine nationale, elle est extrêmement large. Donc il y a plus de 80 métiers différents. Ça va quand même la personne qui va faire du service en salle, comme dans un restaurant, jusqu'à des gens qui sont ingénieurs de quart nucléaire, donc qui travaillent sur des chaufferies nucléaires. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme particulier d'une façon générale. Parfois, on regarde pour des spécialités assez techniques vraiment vos diplômes. Mais après, on a quand même énormément de spécialités dans lesquelles on va regarder essentiellement la personnalité. Donc il faut avoir des qualités communes. Déjà, il faut être capable de vivre en collectivité. Il faut avoir une soif d'apprendre parce que même si la marine, c'est pas le système scolaire, il faut être capable de progresser toute sa vie dans la marine. On progresse en compétences, en responsabilité et en grade. Et donc, il faut avoir cette appétence de l'évolution professionnelle.
Le capitaine de vaisseau Makara Houk termine son séjour sur le territoire demain. Il était donc notre invité du matin à 7h30. Une interview à retrouver sur notre site internet rrb.nc.
À 11h39, une pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie. Nous parlerons du marché du chocolat, qui est l'une évidemment des traditions de Pâques. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés, faisons-les rêver.
Envie de vivre l'aventure en Subaru sans que votre banquier se fasse harakiri ?
Jusqu'au 24 mai, ce sont les jours Banzai chez Subaru. Jusqu'à 500 000 francs de remise sur l'achat d'un Subaru Forester, Outback ou Crosstrek. Pour profiter de cette attaque éclair sur les prix, foncez tel un ninja chez Subaru au village automobile PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné.
Offre valable du 7 avril au 24 mai 2025 dans la limite des stocks disponibles et remises pouvant aller jusqu'à 500 000 francs selon les modèles. Voir conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Ce week-end, les familles calédoniennes vont donc fêter Pâques, fête religieuse, accompagnée par plusieurs traditions et notamment celle des fameux œufs en chocolat. Cette année, c'est un marché bouleversé sur le chocolat, car depuis quelques années, les prix augmentent au grand dam des consommateurs, Léana Colombo.
Et oui, cloche, lapin, œufs, les fêtes de Pâques sont un moment fort de l'année pour la consommation de chocolat. Mais les cours du cacao, qui atteignent des niveaux records, font sérieusement pression sur les prix. Les amateurs de gourmandise vont devoir dépenser de plus en plus pour se faire plaisir. Du côté des artisans chocolatiers, cette fête représente une grande partie de leur chiffre d'affaires. Pas question donc de passer à côté. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il vaut mieux se préparer à l'avance. C'est ce que préconise Grégory Olot, gérant de la Cabosse d'Or à la baie de l'Orphelinat.
Ça se passe relativement bien pour l'instant. On est content des ventes qui sont faites depuis une semaine. Donc les chiffres sont positifs. On doit tourner à peu près à 35% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment important pour un chocolatier. On ne peut pas ne pas faire Pâques. Ça fait déjà un mois et demi qu'on travaille sur Pâques. On ne commence pas trop tôt parce qu'on va avoir des produits frais tout le temps. Et donc du coup, c'est un challenge d'arriver à la fin avec suffisamment de stock. Bon, cette année, c'est particulier. On se demande un petit peu où on va parce que la conjoncture, elle est plutôt mauvaise. Avec les événements qu'on a connus l'an dernier, avec l'augmentation du chocolat. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On a un produit qui devient un produit de luxe quand même.
Les prix du chocolat s'envolent donc. La demande mondiale augmente, mais la production est à la peine. Ce qui a des conséquences directes pour les consommateurs, explique Fabien Pelletier, co-gérant de la Maison Morand au Quartier Latin.
Au niveau mondial, le chocolat, il a dépassé les 12 000 dollars la tonne. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Bah, c'est une hausse assez conséquente. En quelques années, quelques mois, il a pris plusieurs dizaines de pourcents d'augmentation. Malheureusement, ça se répercute. Le chocolat, on sait qu'il a atteint un niveau de prix qu'il n'avait jamais atteint cette année. Forcément, au bout d'un moment, on est obligé de le répercuter sur nos produits et ça se répercute sur les clients. Les clients sont quand même fidèles, hein. Ils sont attirés par tout ce qui est qualité. On espère leur répondre, en tout cas.
Malgré ces hausses conséquentes, certains artisans chocolatiers tentent de limiter la casse en essayant au maximum de ne pas augmenter leur prix. C'est le cas de Poste Chocolat à la Vallée des Colons. Son gérant Jonathan Bataille a décidé de ne pas répercuter ces augmentations sur ses clients cette année.
La hausse du chocolat et la crise du cacao est énorme depuis mars 2024. On a pris grosso modo plus de 200% sur l'achat de nos matières premières. Donc dans un modèle économique comme la chocolaterie, quand votre matière première prend 200% en l'achat, c'est une vraie crise qui se pose. J'ai réussi à trouver des solutions qui seront provisoires, que je ne pourrais pas faire perdurer, mais ça nous a permis de conserver la qualité de notre travail, la qualité des ingrédients qu'on utilise et surtout le prix que je n'ai pas bougé cette année. Je fais, moi, l'effort cette année de maintenir un prix qu'on a eu depuis l'ouverture parce que j'estime qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire des efforts, à commencer par nous, les commerçants.
Dans les chocolateries, les clients affluent et repartent avec des sacs remplis de gourmandises chocolatées. Et pour tous, le plaisir d'offrir reste intact.
Moi, ce que j'ai acheté, c'est pour effectivement la famille et puis pour moi parce que j'adore le chocolat. Pour mon fils, sa belle-fille et puis pour faire plaisir parce que c'est Pâques.
Qu'est-ce que vous avez pris comme chocolat ?
Alors du chocolat noir exclusivement parce que je suis une passionnée de chocolat et j'estime que le chocolat noir, ça vaut le coup d'être goûté.
Trois chats en chocolat au lait. C'est l'occasion de se goinfrer de chocolat.
Et donc les chocolats, c'est chaque année, malgré la hausse des prix ?
Ben, on en prend des plus petits pour garder un budget à peu près équivalent, voilà.
C'est très important, ça met un peu de joie dans les cœurs, c'est quelque chose de bien, oui.
Et s'il y a quelques années, les chocolatiers pouvaient se permettre certaines originalités dans leur création, notamment avec du chocolat blond ou dulce, les artisans ont pour la plupart décidé de s'en tenir au classique, le blanc, le noir et bien sûr au lait.
Animation musicale au Kiosque à musique, un événement organisé aujourd'hui par le collectif d'artistes calédoniens et la ville de Nouméa, en partenariat avec NC Tourisme. L'occasion de découvrir l'art local et surtout en attirant les touristes, notamment les croisiéristes, avec de la musique, de la peinture et de la sculpture. Un rendez-vous qui se poursuit jusqu'à 15h au Kiosque à musique. Le décès d'une figure calédonienne, on a appris la mort mercredi d'Herbert Coursin à l'âge de 95 ans. Herbert Coursin était issu d'une vieille famille calédonienne et l'historien Luc Steinmetz l'a bien connu, notamment parce qu'il partageait la même passion pour l'aviation.
Ce qu'il faut retenir d'Herbert, d'abord parce que c'est son œuvre majeure, c'est qu'il a été avec d'autres, Henri Martinet, Éric Echambrenner, etc. Il a été en 1954-55 le fondateur d'une compagnie aérienne qui s'appelait la Transpac et dont l'objet était d'assurer la desserte aérienne des îles Loyauté à partir de Nouméa et même éventuellement de certains points de la Grande Terre. Et cette compagnie s'est développée et elle est devenue Air Calédonie. qui a dépassé ses 70 ans l'année dernière. Je me souviens d'ailleurs que quand j'évoquais avec Herbert des souvenirs sur Transpac et Air Calédonie, il me disait que sa fierté, outre d'en avoir été le créateur, c'est en même temps de constater avec beaucoup de bonheur que cette compagnie n'avait jamais eu d'accident en 70 ans d'existence. Et ça, je tiens à le rappeler.
Et pour la petite histoire, Herbert Courcin a continué à voler comme pilote jusqu'à ses 85 ans. Outre sa passion pour l'aviation, Herbert Courcin avait trois autres engagements dans sa vie professionnelle et publique, rappelle Luc Steinmetz, la Chambre de commerce et d'industrie, la vie associative et son métier d'avocat.
Il a été pendant longtemps bâtonnier de l'Ordre des avocats à Nouméa. Et il était très apprécié, d'abord par ses connaissances du pays, par ses connaissances juridiques, et puis également par sa grande courtoisie. C'était une de ses qualités. Et puis enfin, ça a été un grand sportif. Et de ce point de vue-là, il s'est beaucoup engagé dans la vie associative, pas seulement du sport, je pense au Rotary, dont il a été fondateur aussi, mais dans les équipes de football calédoniennes, il avait comme compagnon de jeu dans une équipe de Nouvelle-Calédonie, Jacques Lafleur, par exemple, Gabi Quérol, Roger Cadour, Yves Agès, enfin tous ces anciens, aujourd'hui disparus. Il en était peut-être un des derniers ou le dernier. Donc un sportif qui a fait également du water-polo, qui a fait également du tennis. Et donc un homme complet, c'était vraiment une personnalité calédonienne qui sera évidemment regrettée et qu'il ne faut pas oublier. Il fait partie, à sa manière, des bâtisseurs de la Nouvelle-Calédonie.
Le témoignage de Luc Steinmetz sur Herbert Courcin, qui est donc décédé mercredi à l'âge de 95 ans. À sa fille Vanessa et à sa famille, Radio Rythme Bleu tient à adresser ses plus sincères condoléances. À 11h47, on va marquer une nouvelle pause avant de voir dans un instant ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Besoin d'un nouveau véhicule? Alors rendez-vous au Village Automobile à Nouméa PK4.
Eh oui, le Village Automobile, c'est le seul endroit qui regroupe 11 grandes marques de véhicules neufs.
Et jusqu'au 10 mai, profitez de nos prix les plus bas et venez essayer votre nouveau véhicule parmi nos marques. Chevrolet, Citroën, DS Automobile,
Great Wall Motors, Haval, Isuzu, Mercedes,
Opel, Peugeot, Power et Subaru.
Le Village Automobile, un seul endroit et des offres de folie. Le Village Automobile est ouvert en continu du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 11h30. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
Les vives tensions persistent entre la France et l'Algérie. Alger impute la responsabilité de cette crise au ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, accusé par le ministère algérien des Affaires étrangères, je cite, de barbouzerie à des fins personnelles. Alger a expulsé 12 agents consulaires français. Paris a fait de même et a rappelé son ambassadeur pour consultation. Arthur Delaborde pour Europe 1.
L'entourage d'Emmanuel Macron parle de mesures symétriques nécessaires contre Alger et défend une ligne de fermeté tout en refusant l'escalade et en affichant une volonté de dialogue. L'Élysée a d'ailleurs tenté d'échanger avec Alger ces derniers jours sans obtenir de réponse, précise un conseiller de l'exécutif. Alors que le régime algérien accuse Bruno Retailleau d'être responsable du regain de tension, le président est décrit par ses proches comme totalement en phase avec le ministre de l'Intérieur. Même soutien affiché de la part de la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Il n'y a pas d'affaire Retailleau, il y a une affaire d'escalade que nous regrettons dans les tensions entre l'Algérie et la France. C'est bien regrettable car nous étions partis sur une relation un peu plus apaisée, un peu plus constructive et j'appelle de mes voeux que cette relation redevienne constructive.
Par ailleurs, sur le cas Boualem Sansal, l'Élysée explique n'avoir d'autre choix que de continuer à s'en remettre à la clairvoyance des autorités algériennes pour espérer la libération de l'écrivain franco-algérien.
En métropole, le gouvernement poursuit son travail pour trouver 40 milliards d'économies dans le budget 2026, 40 milliards d'euros. C'est l'objectif affiché par le Premier ministre et son ministre de l'économie, des économies qui doivent se faire sans augmentation d'impôts, selon l'exécutif. Les premières pistes seront proposées aux alentours du mois de juillet et parmi elles, un travail autour des quelques 467 niches fiscales recensées. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin.
On a des dizaines de niches qui bénéficient à moins de 100 contribuables. Si on en supprime beaucoup, nous voulons pouvoir baisser les impôts. C'est 85 milliards d'euros quand même, hein, les 467 niches fiscales dont je vous parle. Donc vous voyez, si on en supprime 10%, ça fait quand même 8 milliards.
Et en lançant le chantier de réflexion très tôt, François Bayrou espère éviter d'être mis sur la sellette et c'est la raison pour laquelle il consulte aussi largement. Il espère aussi de dissuader la France insoumise ou le Rassemblement national d'appuyer sur le bouton de la censure, une demande qui ne semble pas être entendue par le RN. Maïlène Trémollet.
Bien au contraire, le parti à la flamme est plus remonté que jamais. Alors que le président du RN, Jordan Bardella, pointe du doigt un gouvernement en bout de course, Marine Le Pen lance un avertissement. Nous ne laisserons pas passer des mesures contre les Français alors qu'il existe tant de gabegies et de mauvaise gestion des finances publiques, déclare-t-elle sur les réseaux sociaux. Prise de position appuyée par le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, hier dans les couloirs de l'Assemblée.
Il n'y a eu aucune réponse. Je me demande à quoi servent les ministres depuis 6 mois, puisqu'on a déjà eu des exercices à Bercy et ailleurs. Les sujets s'accumulent et les problèmes sont en train de s'aggraver.
Il faut dire que depuis quelques jours, le RN rappelle inlassablement ses lignes rouges, sans succès, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, le refus catégorique d'impôts nouveaux ou encore la question des dépenses liées à l'immigration. Autant de sujets qui pourraient motiver une Marine Le Pen bien décidée à clore le chapitre de sa condamnation, à réserver à François Bayrou le même sort que celui de son prédécesseur Michel Barnier, censuré début décembre.
Toujours en métropole, mais en bref, l'enquête ouverte par le parquet antiterroriste se poursuit après les attaques de ces derniers jours contre plusieurs établissements pénitentiaires. La nuit dernière pour nous, plusieurs voitures de l'administration ont été incendiées ainsi que le hall d'un immeuble où habite une surveillante de prison. Les responsables de ces attaques seront retrouvés, jugés et punis, a déclaré le chef de l'État. En attendant, l'enquête se concentre sur un canal Telegram sur lequel plusieurs profils se retrouvent, des narcotrafiquants, des anti-États ou des contestataires violents. Certaines expressions font aussi penser à la rhétorique des frères musulmans. Les enquêteurs se concentrent également sur le sigle DDPF tagué sur plusieurs prisons pour essayer de savoir ce qui se cache derrière cette défense des droits des prisonniers français. Pierre Palmade est rentré chez lui, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir causé un grave accident de la circulation alors qu'il était sous produits stupéfiants. Il bénéficie d'un aménagement de peine. Il a quitté la prison de Gradignan pour effectuer sa peine à domicile avec un bracelet électronique. Et puis l'inquiétude des viticulteurs. La consommation de vin dans le monde a chuté de plus de 3% entre 2023 et 2024 et elle atteint son plus bas niveau depuis 1961. Une baisse qui est due en grande partie à une consommation en recul aux États-Unis en raison de l'inflation. Autre raison, des habitudes de consommation qui bougent, explique Jean-Marie Cardéba, professeur à l'Université de Bordeaux, avec notamment un recul de la consommation de vin rouge.
Les vins blancs se vendent mieux, les vins rosés se vendent mieux. Donc je pense qu'il faut adapter le produit aux préférences des consommateurs. Plus de fraîcheur, des vins qui soient adaptés à cette nouvelle demande.
Et notez que la France n'est plus le premier pays producteur de vin dans le monde. En 2024, c'est l'Italie qui a produit le plus d'hectolitres. Il est 11h53, la dernière pause de ce journal. On voit l'actu sport dans un instant avec Léo Fichou et on se retrouve ensuite pour les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Samedi 26 avril, de 8h à 13h, foncez au complexe Le 4. Vente flash sur les croquettes pour chiens et chats. Un paquet acheté égale un offert. Vos animaux se régalent et la bande à nounous reçoit 10% des ventes. En plus, tentez votre chance pour gagner un an de croquettes, chiens ou chats. Offre valable uniquement le 26 avril. Plus d'infos sur Facebook, Le 4. Le 4, 186, rue Jacques Ekaoué. Faites vos courses autrement.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va parler football. On connaît en effet maintenant les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions, Léo.
Ce sera Paris Saint-Germain, Arsenal et Barcelone, Inter Milan, puisque ce matin, Arsenal a éliminé le Real Madrid et l'Inter de Milan est venu à bout du Bayern Munich. Et on démarre en Espagne. On avait le droit à un duel entre deux Français, deux frères de Bondy, comme ils disent, le madrilène Kylian Mbappé d'un côté, le canonnier William Saliba de l'autre, malgré une énorme erreur qui a permis à Vinicius de relancer le Real alors qu'ils étaient menés 1-0. C'est bien William Saliba et Arsenal qui se sont qualifiés pour la troisième demi-finale seulement de l'histoire du club londonien. Pardon, après avoir écrasé les Merengues 3-0 à l'aller, ils se sont imposés 2-1 au stade Santiago Bernabéu grâce à Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Ils affronteront donc le Paris Saint-Germain tombeur d'Aston Villa. Dans l'autre quart de finale, l'Inter de Milan défiait le Bayern Munich. L'Inter qui s'était imposé 2-1 à l'aller sur la pelouse du Bayern. Match retour, 2-2. Les Milanais sont donc qualifiés et ils joueront contre le Barça tombeur de Dortmund. Les demi-finales aller auront lieu les 30 avril et 1er mai. Les matchs retour se joueront les 7 et 8 mai.
Et parlons maintenant de la handballeuse calédonienne Nora Folitou. Elle vient de franchir un cap important dans sa jeune carrière. Elle a en effet signé son tout premier contrat pro.
L'annonce a été faite en début de semaine sur les réseaux sociaux de son club, le Toulon Métropole Var Handball. À 21 ans, Nora évolue déjà depuis deux saisons en tant que stagiaire professionnelle dans le sud de la France. Elle vient de signer pour une saison supplémentaire.
Quand tu reçois une demande comme ça, une proposition d'un premier contrat pro, bah, ça fait toujours plaisir quand tu viens de loin et que tu as sacrifié, entre guillemets, hein, pas mal de choses pour en arriver à là. Donc oui, tout de suite, tu es contente, tu es heureuse, tu es assez fière. Tu te dis, bah, enfin, ça commence. Tu rentres dans le vif du sujet et franchement, bah, ça fait trop plaisir, quoi. Cette année, c'était un peu une année test pour moi parce que je suis entièrement avec l'équipe première. Du coup, je vis de handball comme toutes les joueuses pro. On a le même emploi du temps, on a les mêmes séances de muscu, les mêmes séances d'entraînement. Il n'y a pas de différence entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je ferai l'année prochaine. Donc, je suis déjà prête à ce mode de vie. C'est juste que mon statut va changer. Je ne serai plus la joueuse du centre de formation stagiaire pro, mais je serai une joueuse pro de l'équipe.
Et formée à Rivière-Salée, à la SPTT, elle n'est pas la seule calédonienne à évoluer en première division française. Nora Folitou suit les pas de son amie Suzanne Wajoka.
Oui, bah, Suzanne, au-delà du handball, c'est une très 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 bonne copine à moi. Donc c'est vrai que quand on ne se connaissait pas encore, c'était oui, une joueuse assez inspirante pour nous. Quand tu es en Calédonie, que tu vois qu'une joueuse de chez toi, elle perce, elle avance dans le handball, bah, tu te dis pourquoi pas toi. Si elle peut y arriver, tu peux aussi y arriver. Et oui, on échange souvent sur nos matchs, on fait des retours de matchs toutes les deux, on se donne notre avis sur le match qu'elle a fait par exemple, moi je lui dis ce que j'en ai pensé et elle pareil. Et oui, on se voit assez souvent et sur les terrains ou dehors.
Et pour la suite, la Calédonienne a de grandes ambitions. Elle rêve de porter un jour le maillot de l'équipe de France avec son amie Suzanne Wajoka, voire même de participer aux Jeux Olympiques. En attendant, place au championnat ce week-end. Elle affrontera Saint-Amand avec son club de Toulon pour la 19e journée.
À 11h57, on va refermer ce journal.